le rendez-vous des amateurs de sport. Avec Michel Tifot et Dominique Bolduc. Bienvenue dans le vestiaire. Dans
le vestiaire. Bon début de week-end, mesdames, messieurs. Bon début de week-end, Dominique Bolduc.
Salut, Michel.
Si tu as soir que les Jays vont se lancer? Parce que là, il en reste trois, là. Si Toronto gagne, Seattle perd, c'est réglé.
Oui. Ça devrait se faire. Je m'étonnerais bien gros qu'ils perdent les trois, en fait.
Non, pas les trois, mais je suis pas sûr que c'est à soir. Là. C'est Kikuchi à ce soir.
Les autres s'affrontent entre eux autres.
Ouais, c'est ça qui est.
Ça avantage les Blue Jays.
Carrément, carrément. Hier, ils ont bien joué, Jays, là. Lui, au deuxième but, c'est Bijou.
Ouais.
Il t'a fait un catch à un moment donné. Wow. Ils sont bons défensivement, Jays. Circuit de Varcho, de Chapman, de Bell, Brandon Bell.
Manque de... Ils sont pas stars.
Es-tu capable de visualiser Brandon Bell? Vite, vite, je te dis ça, là. Regarde ses yeux. Les yeux à Joël Thériault.
Ah ouais?
Ah, tu remarqueras.
OK.
Je le regardais. Il y avait un gros plan sur Brandon Bell. Là, mm-hmm. Je dis, bon, à qui... J'ai dit, les yeux à Joël Thériault. Alors, ce soir, c'est contre Tampa Bay. Houston contre Arizona, et puis Texas va jouer contre Seattle. On a quelqu'un au téléphone?
Ben oui.
Parce qu'on a du hockey pour Canadiens ce soir contre les Maple Leafs de Toronto. Et il y a beaucoup de sports en fin de semaine. Les Saguenayens, les Marquis, il y a un match en concours.
Dernier match en concours ce soir du côté de Thetford Mines.
On va discuter tantôt avec Bob Desjardins. Il y a la chasse aussi. On va faire un résumé de ce qui s'est passé dans les premiers jours de chasse. Mais pour tout de suite, le téléphone qui sonne dans le vestiaire. Bonjour.
Bonjour, Michel. Bonjour, Dominique.
Bonjour.
Il y a des poules d'hockey en fin de semaine aussi.
Oui, mais là, oui, mais il y en a tellement que si on commence à les annoncer, quel est le principal poule d'hockey? On peut en annoncer un, mais pas vite.
Ben, c'est ça, le stade à Chicoutimi, le dimanche.
Dimanche?
Oui, c'est ça. Dimanche à 1h, ça coûte 210 $ par équipe. On est une trentaine d'équipes.
Trentaine d'équipes, de wow!
Puis gagnant, ouais. Il récolte combien à la fin de l'année? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des poules d'hockey.
Ouais.
Il gagne combien, le gagnant? À fin?
Le gagnant, il gagne 4 000 $.
4 000, c'est bon.
4 000. Hey,
merci.
C'est un bon investissement.
Merci beaucoup.
Michel?
Oui, Connor Bedard, on le choisit quand, Connor Bedard?
Oui, il va sortir haut.
Ouais.
Ils
sont
en troisième ronde, Connor Bedard.
Pas avant troisième, OK.
Ah, ouais?
Ouais. Il y a eu un gros blessé aussi
Vasilevski.
Dans la Ligue nationale.
Vasilevski, à moins qu'il n'y en ait un autre.
Il a sorti. Nous, à ce moment, c'est notre quatrième. Il est sorti de bonne heure. Eux autres, ils ont scrappé leur repêchage tout de suite en partant.
Ah, oui, mais on n'a pas le droit de faire un changement après une couple de semaines.
Non, 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 même pas. Même
oh
pas
non,
c'est ça que j'ai dit dans le repêchage.
Fait mal.
Ça fait mal. Très mal. Merci beaucoup.
OK, salut.
Matt Zuccarello a signé un beau contrat, 2 ans, avec le Wild du Minnesota. As-tu des détails de cette entente-là?
Oui, c'est une prolongation de contrat, en fait, pour Zuccarello, qui va toucher 8 250 000 $ donc durant cette entente. Donc, c'est 4 125 000 par saison. Lui qui s'est joué au Wild en 2019 et donc sous contrat jusqu'en 2026. Il écoule actuellement la dernière année d'une entente de 5 ans évaluée à 30 millions, donc 6 millions par année. Lui qui est maintenant âgé de 36 ans a réussi 22 buts et 45 passes pour 67 points en 78 rencontres. Sa meilleure saison, c'était l'an dernier, en fait, il y a 2 ans, où il avait réussi une saison de 79 points en 70 matchs. Joueur jamais repêché. Qui va quand même bien. On parle de 573 points en 766 rencontres dans la Ligue nationale avec New York, les Stars et le Wild.
Au tennis, au tournoi de Pékin, Félix Auger-Aliassime a perdu dès le premier tour. Mais je vois contre un bon joueur, par exemple, là, Holger Rune,
oui.
Qui est 15e au monde, 6-4 et 6-4. Ils ont de la misère, nos Québécois, Québécoises. Aux États-Unis, à l'Omnium des États-Unis, on n'a pas été ben loin.
Même
Chapovalov est toujours blessé.
Oui, on parle de Félix Auger-Aliassime, mais Hernandez a perdu également.
Oui.
Elle a plié les Chines contre l'Allemande Eva Liss, 122e au monde. Fernandez est 60e, elle a perdu 6-4, 6-3. Et Rebecca Marino, elle aussi, a dû plier bagage contre Lucia Bonzetti, 4-6, 6-1, 2-6.
Et au Saguenay, on prépare le Challenger Bank National. Il y aura un point de presse la semaine prochaine.
C'est vrai, au mois d'octobre.
Et on a du hockey ce soir pour les Saguenayens de Chicoutimi. À Victo, on revient au Centre Georges Vézina dimanche.
Contre les Remparts. Hein.
Les élites sont en voyage du côté de Amos.
2 rencontres demain et dimanche.
C'est quoi? C'est 2 victoires, 4 défaites depuis le début de l'année?
Oui, plus de 2-4.
et les Marquis ce soir en match hors concours. Le match de ce soir n'est pas à la radio, mais on a les games à la radio cet hiver.
À compter de vendredi prochain.
Toutes les parties à l'extérieur avec Jean-Michel Fortin. Exactement.
Oui. Donc, ça commence à Sorel vendredi prochain.
OK, on va jaser avec Bob Desjardins dans les prochaines minutes, mais au retour de la pause, la chasse. Bon, oh. On est dans la période de la chasse.
Ben oui.
Arrêt de jeu. Retour en vestiaire dans quelques minutes.
Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca.
Ce n'est pas une arnaque. Le 92.5 a bel et bien une nouvelle page Facebook. Les fans de CKJ 92.5, Meta, ayant bloqué tout le contenu d'informations canadiens de ces plateformes, nous avons décidé de créer une seconde page pour rester en contact avec vous, nos auditeurs. Venez aimer notre nouvelle page Facebook, les fans de CKJ 92.5, pour connaître les nouveautés à nos émissions, participer au bingo en direct ou encore contacter nos animateurs. Rendez-vous sur Facebook, la page Les fans de CKJ 92.5.
Tout n'est jamais perdu dans la vie. La preuve, les cartes non gagnantes du bingo du 92.5 pourraient vous valoir un prix de 50 à 100 $ en bons cadeaux. Apportez votre carte non gagnante achetée chez Jean Coutu des rues Saint-Dominique et Saint-Hubert à Jonquière et courez la chance de gagner un bon cadeau de 100 $. Sinon, les cartes perdantes provenant d'ailleurs, ce sera 50 $. Jean Coutu Jonquière accepte toutes les cartes non gagnantes du 1er octobre 2023 du 92.5 pour ce tirage exclusif qui sera effectué le 8 octobre. Le bingo du 92.5, une présentation de Jean Coutu, rue Saint-Dominique et rue Saint-Hubert à Jonquière.
La chasse avec Mathieu Boudeau.
As-tu déjà essayé d'imiter un orignal?
Bon, à l'occasion comme ça, là, mais sans être vraiment professionnel, non.
Okay. Il y en a des bons, par exemple.
Il y en a de très bons.
Là, cette semaine, on avait à pleine lune, c'était beau. Hein. Dehors, là, le soir, la nuit. Là,
c'est vraiment eu une belle semaine.
Et hey, puis, la chaleur. Puis là, c'est la question.
Pas de vent.
Pas de vent. Ça influence-tu les orignaux, ça? C'est Mathieu vrai? Boudreau, notre spécialiste avec nous. Bonjour, Mathieu.
Salut, les boys.
La pleine lune, la chaleur, ça influence-tu? Oui.
Ça influence sur bien des points, mais peut-être pas. Mais souvent, il y a des fausses croyances dans ça aussi.
Oh, OK, démêle-nous un petit peu dans ça, là.
OK, bien, pour la Lune, là, la Lune, le seul impact que ça a au niveau de l'orignal, puis il y a des études pour le prouver, c'est que ça fait plus clair dans le bois pour le soir, pour qu'il puisse se déplacer.
OK.
Il y a beaucoup de gens qui ont des croyances que la Lune, c'est elle qui gère la date de quand le rut va se faire, mais c'est faux. Ce qui gère la date du rut, c'est vraiment la photopériode, ça veut dire la durée du jour. C'est ça qui va commencer à déclencher chez les mâles là, début septembre, 8-9 septembre, ça va déclencher les premières poussées de testostérone pour perdre leur velours. Puis chez la femelle, dans ce qu'on appelle le pic du rut, ça va déclencher l'ovulation à la fin septembre.
Et la chaleur, comme cette semaine, est-ce que ça ralentit le trafic des animaux, des orignaux?
Bien, ça aussi, tu vois, là-dedans, il y a beaucoup de fausses croyances, mais les faits dans ça, c'est que présentement, c'est vraiment de l'instinct. Les animaux, ils ont des dates pour se produire, parce que si on les vaut trop tard, ils seront pas prêts à l'automne quand leur mère va les laisser, ou trop tôt, ils vont naître sur la neige, puis ils auront rien à manger. Fait que présentement, tu sais, la chaleur, ça va impacter les déplacements des orignaux, ça va les pousser à se déplacer peut-être plus de soir ou de nuit, ou tôt le matin, parce que là, présentement, les orignaux, ils ont leur poil d'hiver sur le dos, fait que c'est excessivement chaud pour eux autres, mais c'est pas assez chaud pour déplacer la période du rut. De toute façon, biologiquement, c'est impossible. Fait que, la chaleur, c'est comme je vous dis, c'est vraiment au niveau des déplacements que ça va changer la patente. Plus la pleine lune hier, que vous venez de parler, là, la pleine lune hier avec aucun nuage, là, ben, la nuit, c'est le party dans ce temps-là. Là, il est presque comme en plein jour. Il fait frais, fait qu'il en profite pour se déplacer puis de se rassembler pour faire l'accouplement. Là, c'est clair que c'est les différences entre
Et Mathieu Boudreau, après quelques jours de chasse, quels sont les résultats? Est-ce que c'est bien parti?
Oui, bien, c'est ça. Quand on s'est parlé un matin, je m'étais dit que des gars comme vous autres, t'allais me savoir des chiffres. Fait que je suis allé voir ça, puis j'ai checké ça pour vous autres aujourd'hui, puis je trouve ça intéressant. Puis j'ai hâte de voir comment vous autres, les deux gars qui chassent pas, comment est-ce que vous allez interpréter ça. Fait que je vais vous donner des chiffres. OK? On va commencer par le sud du Saguenay. Toute la partie sud entre le lac Saint-Jean puis le Saguenay. Le ZEC, là, c'est des chiffres de ZEC. Fait que, tu sais, le territoire libre, on n'a pas de chiffres vraiment avant la fin de l'automne parce que c'est tout d'installation d'enregistrement. Mais les ZEC, eux autres, ils tiennent des inventaires. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant. Je vais y aller avec la ZEC de l'An Saint-Jean. 16 orignaux qui ont sorti jusqu'à date.
C'est-tu bon? C'est-tu bon, 16?
Ben, on va en parler tantôt.
OK, j'étais impatient de savoir ça, là.
Mars-Moulin, par exemple, la donnée est vieille. Je ne sais pas pourquoi. Là, ils n'ont pas rafraîchi, mais ça date de 3 jours. Fait que c'est à peu près, ça donne mardi. Mars-Moulin, c'était 8 orignaux qui ont sorti depuis mardi. Fait que toute la fin de semaine plus mardi. Là. Puis là, je vous dis, tout de suite, là, en partant, il y a 80% des orignaux qui seraient. Il y a 80% de la récolte d'orignaux qui se fait durant la première semaine. Ça veut dire que la fin de semaine qu'on arrive, là, on tombe dans le 20% déjà qui reste.
Mais pourquoi c'est moins bon en deuxième semaine?
Parce que le rut est enclenché.
Ah, OK.
Puis c'est pas nécessairement moins bon, c'est juste que les orignaux sont accouplés, puis tout dépendant de la pression de chasse, bien, il y en a qui vont s'en aller dans des endroits plus sûrs. Puis parce que les orignaux sont pas fous, là, on se ramasse 20-25 dans 15 km carrés à crier après eux autres. Ça finit que les orignaux ils se replacent. Mais ça veut pas dire que c'est pas bon la deuxième semaine. Bien au contraire, le deuxième call, la deuxième semaine, c'est là qui est intéressant parce que les mâles vont chercher des nouvelles femelles au lieu de courir après ceux-là qui sont avec.
Ah, les petits malcommodes!
Ouais. Fait que, OK. En Saint-Jean, 16, Mars-Moulin, 8, Brébeuf, le ZEC Brébeuf, 36 orignaux pour un total, pour les trois ZEC du sud, de 60 orignaux.
Plus de bas comme plus de femelles?
Beaucoup de balancés dans le sud. Beaucoup de femelles, très peu de bas. Très débalancés.
Bon.
Dans le sud, dans le nord maintenant. Martin Valin, attachez votre tuque, 172.
Et tabarouette! Le territoire est plus grand, il y a pas mal plus d'orignaux.
Pas du tout. Pas du tout. Là, les chiffres, vous allez voir, les chiffres, ils parlent d'eux autres. Même, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de récoltes dans le nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un Atchoué 30, puis la Boiteuse 21, pour un total dans le nord d'environ 223 orignaux récoltés jusqu'à date, dans les ZEC seulement. On n'a pas parlé du territoire public.
Ouais.
Puis les barrières. Tu sais, Martin Malin, ils ont beaucoup de hors-ZEC qui passent parce qu'il y a juste une entrée pour aller vers le hors-ZEC dans ce coin-là. Fait que, tu sais, le chiffre, c'est impressionnant. Mais le territoire est quand même grand. Mais quand on regarde, là, comparé à Natchoué, la Boiteuse, puis Martin Valin, le total, versus, il y a presque 4 fois plus d'orignaux qui se sont tués au nord du lac Saint-Jean puis du Saguenay que dans le sud. Fait que ça, tu sais, l'année passée, moi, j'avais déjà commencé à vérifier ça puis à en parler, parce que l'année passée, les chiffres étaient catastrophiques, puis on avait juste le boc. Fait que... Mais là, on voit la tendance, elle est là. Les orignaux au nord sont plus nombreux. Puis le ratio des mâles femelles qui sont abattus est beaucoup plus balancé au nord qu'au sud. Fait que c'est ça qui... Ça, c'est plate à dire pour tous les gens comme moi qui chassent au sud du Saguenay, mais c'est des chiffres qui veulent dire que ça s'en va pas en s'améliorant à cause du fait que le ratio est très débalancé puis que les orignaux sont pas au rendez-vous.
Et Mathieu Boudreau, pourquoi plusieurs chasseurs n'ont aucune réponse et n'entendent pas les orignaux?
Bien, présentement, tout dépendant de où tu chasses, ça se peut que la densité de ton secteur ait beaucoup baissé. Comme moi, dans le Bas-Saguenay, la densité a beaucoup baissé dans les 2-3 dernières années. Il y a eu une grosse année de neige aussi, hein, faut pas l'oublier. Mais la grosse année de neige, on l'a eu aussi sur les Monts-Valin, puis le cheptel est là. Mais bref. Pour les gars, là, parce que j'ai eu des gars cette semaine qui m'ont texté, puis là, j'entends pas rien, pourquoi que les orignaux nous collent pas, nous répondent pas? Bien, c'est parce que présentement, c'est comme je vous parlais tantôt, là, on est en train de terminer la grosse apogée de l'accouplement. T'sais, les mâles se sont mis avec leurs femelles, puis là, il y avait 3-4 femelles avec eux autres, puis là, ils les ont accouplées cette semaine, puis dans la dernière semaine. Fait que eux autres, ils ont pas besoin d'être vocales. Fait que, puis dans les dernières années, les techniques de chasse sont beaucoup améliorées, puis les gars vont beaucoup plus dans la bulle de l'orignal. Fait que c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher des réponses quand il y a les conditions climatiques, puis après ça, ben quand l'orignal finit par avoir une pression de chasse, tu veux pas, plus tu vas chasser ton orignal, plus tu y mets de pression, plus lui, il va se défendre en se cachant ou en essayant de se cacher. Fait que, si vous avez pas de réponse, c'est parce que le rut est vraiment à son plein régime, puis en plus, vous n'avez pas rentré dans sa bulle.
En terminant, là, tu nous as parlé du comportement des orignaux. J'ai le goût de te demander de nous parler du comportement des chasseurs. Parce qu'à la semaine dernière, on l'a dit, là, ça prend du respect en forêt. Est-ce qu'en ce début de chasse 2023, ça s'est amélioré? C'est resté pareil? Ah ben c'est pire.
Moi, tu sais, dans mon coin, moi, j'ai l'impression que le respect est très bien établi. Ça doit dépendre des secteurs, tu sais. Mais là où ça brasse plus, souvent, c'est justement dans des zones où ça a été plusieurs années de misère, puis là, ça commence à bien aller. Ben, souvent, il y a des gens qui essaient de se rapprocher de ces zones-là parce qu'ils veulent pas. Eux autres aussi, ils veulent passer dans la manne, comme on dit. Là. Fait que, c'est ça qui va créer des chicanes. Mais tu sais, en même temps, là, la base de la chasse, là, c'est de passer du bon temps avec ta gang. Puis la récolte, c'est toujours secondaire. T'sais, j'ai entendu cette semaine des il nous reste 4 permis, il nous en reste 2 à tuer. T'sais, c'est pourquoi tu as besoin de tuer 2-3 orignales. Tu as déjà été chanceux, tu as passé du temps en amis et en famille. T'as réussi à en récolter un. T'sais, moi, c'est ce bout-là. Là, c'est là qu'il faut que les gens aussi réalisent que c'est pas parce que t'as 20 permis que tu peux tuer 10 orignales. T'sais, ton secteur, il te le permet-tu pour commencer, puis après ça, tu vas-tu avoir du fun? T'sais, là, présentement, il y a des gens qui chassent à 25 degrés en plein cœur d'après-midi. Là, c'est pas tout le temps plaisant. Là, t'sais, t'es dans une montagne, t'as marché tout le matin, t'es en sueur. Fait que, t'sais, prenez le temps d'avoir du plaisir, puis les chicanes entre vous autres, là, ça sert pas grand-chose au bout de la ligne, parce que la forêt, elle appartient à tout le monde. Fait que respectons-nous, puis ayons du fun, puis la récolte, c'est toujours secondaire.
Mathieu Boudreau, merci beaucoup, on se reparle bientôt.
C'est good.
Au revoir. Je voudrais saluer, Dominique, les chauffeurs d'autobus. On me dit que dans les autobus scolaires, il y a des jeunes qui me disent « Hey, je vous ai entendu dans l'autobus scolaire. » Beaucoup de chauffeurs d'autobus s'intonisent à 92.5 et l'émission, parce que là, c'est l'heure des autobus, là. 4h moins quart, 4h, 4h et quart. Salutations, évidemment, à tous les jeunes qui nous écoutent via leur chauffeur d'autobus. On a quelqu'un au téléphone. Dans les prochaines minutes, Bob Desjardins des Marquis de Jonquière. Oui, bonjour.
Bonjour, c'est parce que moi, ce midi, à l'heure qu'ils font les ventes et tout ça, là,
oui.
J'ai pas eu le temps de prendre le numéro de téléphone de monsieur qui vendait une porte à la baie.
Mais on ne prend pas le numéro non plus, madame.
Il faut être aux aguets, madame.
Essayez entre midi et 1h lundi.
Ouais.
Ça vous OK, merci.
Puis avec votre crayon, vente de garage, on prend un crayon.
Il faut être prêt.
C'est comme le bingo. Bingo, ça prend les... Ouais, ils appellent ça.
Si on manque un numéro, on ne répète pas.
Ça va pas bien. Ouais. Mais ils disent 3 ou 4 fois le numéro, là.
Deux fois.
Deux fois?
Oui.
OK, je ne joue pas. Ça me donne rien de jouer, pas le droit de gagner. J'aimerais ça, par exemple. J'haïrais pas ça, Joe Bingo. Mais tu sais, maintenant, je me suis informé. Claudine a dit, ben Michel, t'as pas le droit de gagner. Ben c'est normal, on est des employés. Ben imagine, Dominique Bolduc, qu'il faut gagner 5 000.
Ouais.
L'os de cœur, là. C'est ça, l'os de cœur. La chasse à l'os de cœur. Hey, c'est le fun, j'adore ça, par exemple. Bob Desjardins, dans un petit moment, le match de football du week-end à surveiller, c'est dimanche 13h. Les Dolphins contre les Bills de Buffalo.
Ici Jean-Marc Robitaille du 92.5, votre conseiller publicitaire. Avec plus de 40 ans d'expérience, je peux vous assurer une publicité efficace, personnalisée et rentable selon votre public cible. Votre placement publicitaire au 92.5 ne sera pas une dépense, mais un investissement qui fera grandir votre entreprise. Rejoignez-moi 815-2433 ou par courriel jmrobitaille@commercialckag.org. Au 92.5, on pense à nos clients.
C'est rendu une tradition depuis plus de 5 ans. À tous les dimanches, 16h, sur les ondes du 92.5, vous participez au bingo, au super bingo. À chaque semaine, 4 000 $ à gagner avec nos 4 jeux. Le 2 lignes pour 500 $, le H aussi pour 500 $, la carte pleine pour 2 000 $ et la carte pleine consolation pour 1 000 $. Et en plus, avec l'inflation, ben, les cartes de bingo du 92.5 n'ont pas augmenté. Toujours à 5 $ dans nos nombreux dépositaires partout dans la région. Achetez-les rapidement et on se donne rendez-vous à tous les dimanches, 16h, pour le bingo du 92.5. 4 000 $ en prix. Bonne chance!
Hockey senior.
Senior.
15h49, on parle des Marquis qui vont disputer leur dernier match au concours ce soir.
C'est
déjà.
Pas gros, juste deux.
Trois rencontres, oui. Et on se prépare pour la vraie saison de 36 matchs qui va débuter la semaine prochaine. On en parle avec l'entraîneur-chef des Marquis, Bob Desjardins. Salut, Bob.
Salut.
Préparation de trois matchs, une fin de semaine de d'entraînement. Bon, évidemment, du côté de la Ligue nord-américaine, la Ligue senior, on signe, évidemment, bon, notre lot de joueurs. Tu as essayé, tu as fait des tests quand même avec quelques joueurs. Ton alignement, es-tu complet à 90, 95,
100%? Pas loin de 90. Il reste encore des choses à voir ce soir. On essaye encore de nos jeunes qu'on a repêchés cette année. On a eu quand même un bon repêchage. De notre repêchage, il y a trois gars qui sont là. Alors, plus du repêchage d'expansion, Marc-André Tourigny qui s'est joint aussi. Puis on a un nouveau à soir de l'expansion qu'on a eu, pas l'expansion, le repêchage de dissolution de Montcalm, le Zachary Gravel est en uniforme ce soir. Fait qu'on voit des choses, on voit ce que les gars peuvent nous apporter. Et puis, ça sert à ça un petit peu les matchs en concours, c'est que les vétérans apprennent un petit peu la game shape, comme on dit, et puis que les nouveaux là, ou les jeunes, mais ils essayent de nous faire passer. Alors, c'est un petit peu ça. Alors, dernier match sur concours ce soir à Tête-feu.
La semaine passée, lors des deux rencontres, une victoire, une défaite, tu as réussi quand même à diviser les deux alignements. Tu avais des joueurs qui jouaient un match, l'autre ne jouait pas. Mais il y en a un, par exemple, qui a joué les deux rencontres, puis on dirait qu'il est sorti du lot. Mais lui, depuis que tu as fait appel à ses services l'an dernier, ce gars-là, personne ne connaissait pratiquement. Et il est rendu une des vedettes à Jonquière, c'est Vincent Drolet.
Écoute, Vincent, il a seulement encore juste 22 ans. Faut pas oublier que ce gars-là, là. Là, 3 ans, je vois dans le junior 2A. Alors, tu sais, c'est tout à ton honneur. C'est un gars qu'on a amené l'année passée dans la période des fêtes parce qu'il nous manquait des défenseurs. Alors, que j'avais découvert dans le junior 2A avec Alexandre aussi, Alexandre Villeneuve qui avait suivi son cheminement. Alors, tu sais, c'est le fun de voir ça, que le kid il a pris ça au sérieux aussi cet été. Il est arrivé encore plus près que l'année passée. Bonne condition physique. Fait que c'est un faut pas non plus monter trop haut dans le cas de Vincent. On aime ce qu'on voit présentement. Il y a beaucoup d'expérience à prendre aussi dans la Ligue, comment gérer son offensive un peu, mais on aime ce qu'on voit depuis son arrivée avec les Marquis et puis on va continuer à le développer dans ce sens-là.
Est-ce que, bon, avec le début de saison qui commence la semaine prochaine, est-ce qu'il y a des joueurs qui ne risque pas de commencer la saison, peut-être en raison d'une blessure ou en raison de non-disponibilité?
Non, à date, on va toucher du bois. On n'est pas été accommodé par ça. L'année passée, c'était notre côté, ce qui nous a fait beaucoup plus mal, là, surtout avant les fêtes, puisqu'on a eu extrêmement des blessures, des gars clés qui n'étaient pas là en début de saison. Des blessures qui est arrivé dans le camp d'entraînement, dans le cas de Philippe Paradis. À date, on espère que ça va bien été. Des petits pépins à gauche et à droite, mais rien de majeur dans ce côté-là. Fait qu'on va espérer que tout le monde soit en santé et qu'on ait l'aliment le plus compétitif possible à chaque match.
On sait que ce sera bon, Émile Samson et Tristan Bérubé devant le filet. Lors du match à Pont-Rouge la semaine dernière, tu as essayé deux autres jeunes gardiens, dont Joël McKenzie, qui a été devant le filet. Comment tu les as trouvés?
Ben écoute, malheureusement, à cause que Tristan avait un engagement samedi, puis Émile aussi, on s'est retrouvés où on n'avait pas de gardien de but. Alors, j'ai fait aller un petit peu mes contacts à gauche et à droite, puis on a quand même réussi à trouver Antoine Pelletier, c'est un gardien de but de Chicoutimi qui a gaulé dans collégial avec les Janois et puis après le junior 2A à Chicoutimi. Puis Joël McKenzie, c'est le même principe. C'est un gars qui est originaire de cette île, qui a joué son junior 2A avec les Aiglons d'Alma dans le junior 2A que j'ai connu. Tu sais, c'était deux kids que je jouais contre eux dans le junior 2A. Puis là, ils jouaient un petit peu senior les deux. Dans le cas d'Arthur, ils jouaient au Chalet Flamand puis Joël joue avec la formation de Wendake. Alors, je les ai appelés, puis ils ont très, très, très bien fait le travail. Écoute, faut pas oublier que Tedford avait une bonne équipe aussi devant, qui nous ont donné. Fait que les kids ont bien répondu. Je pense que c'était une belle expérience, puis ça peut leur servir pour leur développement dans le senior régional, ici, dans la Ligue du senior du Lac-au-Fleuve. Alors, c'est bien le fun pour eux autres, puis je pense qu'ils ont vécu une belle expérience. Puis ils nous ont laissé une belle petite carte de visite, comme quoi que si jamais on est mal pris à temps et lieu, mais c'est deux gars qui peuvent faire le travail.
Comment tu as trouvé le travail de Donald Brashear, qui même à 51 ans, a joué les deux rencontres la semaine dernière. Il a quand même fait des beaux flashs.
Mais nonobstant des points, là, des fois, le monde peut juger les performances d'un joueur de hockey par ses buts, ses passes ou ses points au cours d'un match, mais la présence de Donald et tout était tout simplement incroyable. Son implication, sa préparation, le gars a 51 ans, puis ça paraît même pas. Écoute, il parle beaucoup, c'est un gars qui il aime ça prendre charge sur le banc. Moi, sérieusement, là, j'ai été agréablement surpris. C'était deux belles rencontres de Donald. Et, écoute, là, ce soir, on n'est pas en uniforme parce que son équipe, Wendake, joue un match sur concours. Alors, c'est ça qui était prévu, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Puis, je pense que Donald aussi, je pense qu'il s'est plaint. Il s'est plaint avec nous. Et puis, de ce côté-là, mais ça va être, l'aventure va se poursuivre, j'en suis convaincu.
Il y a beaucoup de partisans des Marquis qui m'ont demandé, est-ce que Donald Brashear va jouer souvent avec les Marquis? Je vais poser la question à Bob Desjardins.
Mais je pense que je l'ai répété pas mal souvent dans toutes les entrevues, dans toutes les choses qu'on a parlé. Donald, quand j'ai approché Donald, il y avait déjà une entente de signer avec Wendake. Ça, c'était pas question pour moi que je disais à Donald, lâche ça, parce que il est quand même le capitaine de cette équipe-là, puis ça fait quand même 3 ans qu'il joue là. Fait que pour moi, c'est important. Donald, c'est son équipe première, puis c'est bien carré avec ça. S'il en joue 5, s'il en joue 10, s'il en joue 15, tout dépendait de sa condition physique et sa disponibilité, mais ça va être ça. Alors, Donald est au courant de notre cédule, avec sa cédule de son équipe à Wendake. Alors, pour nous, là, ça va être un plus, mais qui va être là. Mais aucune pression qui était mise de côté de part et d'autre pour que Donald joue ou peu importe. Mais regarde, ça va être à la semaine, mais je pense qu'il va jouer sa part de match. Puis, mais qui va être là, mais on va vous le dire à l'avance, mais on adore les deux côtés, je pense. On adore ce qui se passe présentement. Puis je pense que c'est un plus pour les Marquis de Jonquière, pour la Ligue nord-américaine aussi en général.
Tu as parlé de l'implication de Donald Blechir sur le banc des joueurs, dans le vestiaire des Marquis de Jonquière. Le fait qu'il y a beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale de hockey, plus de 1000 matchs, c'est-tu un gars qui pourrait devenir entraîneur à un moment donné?
Ben, des gars, comme je dis souvent, Chris Cloutier, tu sais, le monde, il pense que Chris, il travaille dans un cercle et il fait tourner des ballons sur son nez. C'est pas vraiment ça. Chris Cloutier connaît la game extrêmement bien. C'est un gars qui a vu des matchs de hockey pas loin de 500, 600, 700 carrières dans le hockey senior ou la Ligue américaine. Le gars, il voit un peu, puis c'est des gars qui s'intéressent, mais dans le cas de Donald, c'est la même chose. Écoute, le gars, il a un IQ hockey qui est développé. Tu peux pas jouer 1100 matchs de Ligue nationale sans avoir aucune connaissance de la game. Le gars, quand même, je le répète souvent, des gars dans la Ligue nord-américaine, peu importe l'âge que Donald ou le temps que je joue, des gars qui ont joué dans la Ligue nord-américaine et qui ont scoré 38 buts dans la Ligue américaine de hockey, il n'y en a jamais eu. Il y en a eu un, c'est Donald Brashear. Fait que le gars, il a quand même des bonnes statistiques offensives un peu partout ce qui a passé, des saisons entre 10 et 15 buts dans la Ligue nationale de hockey. Fait que le gars, il connaît son hockey, puis c'est fun d'avoir ça. Puis c'est un gars qui sait un petit peu le rôle que je lui ai demandé. Tu sais, Donald vient pas pour remplir le filet, non, c'est sa présence physique. Des gars qui vont jouer des grosses minutes dans des moments importants. Regarde la game à Pont-Rouge dans les deux dernières minutes, mais il était sur la glace, puis le face-off important dans la zone. Je pense qu'il sait comment se placer, il sait où agir, puis de comment jouer avec la rondelle. Alors pour moi, là, c'est un plus d'une organisation, puis de voir tant nos jeunes et moins jeunes voir un gars de même qui est dédié à la cause, mais t'as pas le choix de suivre ça, puis de prendre le même chemin que Donald.
Alors, le rendez-vous, dernier rendez-vous hors concours ce soir à Thetford Mines, début de la saison, la semaine prochaine à Sorel. Bon, Desjardins, merci. On aura la chance de se parler tout au long de la saison.
Merci, bonne journée.
On continue dans la phase hockey. Dans un petit moment, Gaston Therrien, qui suit le camp d'entraînement des Canadiens de Montréal.
Les dépanneurs Maestro, de tout pour vos petits parties. Des boissons désaltérantes, des bières de micro et un spécial sur les croustilles Yum Yum, deux sacs de 200 grammes pour 7 $. On est recevant comme vous chez Maestro, le chef dépanneur. Les dépanneurs Maestro, de tout pour vos petits parties. Des boissons désaltérantes, des bières de micro et un vaste choix de boissons alcoolisées Seltzer en caisse de 12 unités, saveurs variées. On est recevant comme vous chez Maestro, le chef dépanneur.
La chasse est officiellement commencée. En collaboration avec Ma Radio d'ici, le 92,5 et la Fondation Santé de Jonquière, la chasse à l'As de cœur prend son envol. Vous pourriez gagner gros, même très gros. À chaque semaine, un tirage aura lieu d'un gros lot cumulatif à tous les jeudis 11h30 directement sur les ondes du 80. L'entrée du billet gagnant remporte automatiquement 20% des billets vendus. Si la personne chasse l'As de cœur, elle remporte le gros lot, tout ça en appuyant une bonne cause, car une partie de la vente de billets permettra de financer de nouveaux équipements médicaux à la fine pointe de la technologie pour le secteur de Jonquière. Un billet pour 5 $, 3 billets pour 10 $ et 10 billets pour 20 $. Pour participer, rendez-vous en ligne sur le www.fondationsantéjonquière.com ou par téléphone au 418-695-7711. Bonne chasse à tous et que le meilleur gagne!
Quand vient le temps de justifier la conduite d'un VTT sans casque, c'est pas les excuses qui manquent. Tu roules même pas trop vite. Tu vas pas loin. Dans le temps, on roulait pas de casque puis il y avait pas plus d'accidents.
Peu importe les excuses, rouler sans casque, ça ne pardonne pas. Au Québec, on déplore en moyenne une 20aine de morts en VTT chaque année. Tu te sens vivant quand t'en fais. Arrange-toi pas pour que ça te tue. Un message du gouvernement du Québec.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifo et Dominique Bolduc.
Il est 16h, dépassé quelques secondes. Gaston Therrien est avec nous dans le vestiaire. Bonjour Gaston.
Bonjour Michel, salut dame.
Avant de parler de ce qui se passe chez les Canadiens, hier Dominique et moi on parlait de la perte, l'importante perte du gardien de but Andrei Vasilevskiy avec le Lightning de Tampa Bay. Est-ce que ça peut ébranler le rendement de l'équipe?
C'est sûr, ça va l'ébranler parce que dans les conquêtes des Coupes Stanley ou dans la participation aux séries du côté du Lightning, on sait qu'il y a une bonne défensive, il y a une bonne offensive, mais le gardien de but avait un rôle à jouer. Vasilevskiy l'a très bien joué. Donc, à partir du moment où tu fais partie d'une équipe qui peut progresser et gagner, puis que tu perds un élément comme ça, écoutez, allez pas très, 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 très loin, là. Le Canadien a fait une finale de la Coupe Stanley quand?
Il y a 2 ans.
Avec qui dans le but?
Price puis Vasilevskiy.
OK. Qui maintenant joue pour le Canadien dans le but? Est-ce que le Canadien a participé à une finale depuis ce temps-là?
Non,
la comparaison, c'est que tu ne peux pas perdre un joueur, un élément aussi important qu'en quelque part, tu ne payes pas le prix. Il y a un prix à payer pour une perte ou un joueur. Ils ont perdu Kucherov pendant une saison complète. Ils l'ont fait jouer dans les séries, ils ont gagné. Mais il n'était pas là toute la saison. Là, sans Vasilevskiy, il n'y a pas vraiment de relève au Colorado. Ça va faire mal, pas à peu près. Est-ce que là, maintenant, on va penser signer Stamkos ou on va dire, oups, on va attendre à l'âge que tu as là, puis Vasilevskiy, 2 mois, puis on ne sait pas comment il va revenir d'une opération au dos. Là, ça peut changer un peu la vision de l'équipe, là, de l'organisation.
Mais Stamkos, est-ce qu'il pourrait bouder? Oh, ben, un bon capitaine, il va fermer sa trappe?
Ben, il ne l'a pas fermé.
Il aurait dû la fermer, hein?
Exactement.
Ça, je te pose la question.
Je peux pas concevoir qu'un gars qui a passé sa carrière à Tampa Bay, qui a été bien traité, qui a été bien payé, qui est le capitaine, puis il dit, ben là, je suis un peu déçu de l'organisation. Je pense que Julien Brisebois doit essayer par tous les moyens. Déjà qu'ils ont de la misère avec la masse salariale à contrôler tout ça, il se fout bien des autres, lui, il veut un autre contrat. Puis c'est quoi le nombre d'années qu'il veut sur le contrat? Puis combien de millions il veut? S'il avait dit à Julien Brisebois, regarde, je serais prêt à signer 3 ans, là, je pense qu'il a 35 ou 36 ans, je suis prêt à signer 3 ans, 5 millions par année, ça t'intéresse-tu? Mais à ce prix-là, peut-être que Julien Brisebois aurait dit on va régler ça assez vite. Mais s'il a demandé un 6, 7, puis 8 ans, puis encore un 8, 9, puis 10 millions, à un moment donné, là, des mauvais contrats, les organisations, là, ils commencent à s'apercevoir que ça peut les suivre longtemps.
T'sais, au moment où on se parle, il a reçu pas loin de 100 millions US.
Ça t'en prend combien pour vivre? Ça t'en prend combien pour
vivre? 1 million va être correct.
Non, mais regarde. Dit, je m'en allais, je t'aime pas B, si vous ne voulez pas me le donner, Winnipeg m'offre 8 millions 5 ans. Change, t'aime pas B, Winnipeg. J'ai rien contre la ville de Winnipeg, mais c'est pas le même climat.
Non.
Là, tu as quand même bâti une vie dans cette ville-là. Il a toujours été là. Si c'était un joueur qui avait déjà changé, Huberdeau, il a changé de ville, qui avait rechangé de ville, on aurait moins critiqué parce que tu t'es pas attaché aux gens, tu t'es pas fait des amis. Mais là, lui, il est là depuis le début, depuis qu'il est jeune, ils en ont fait le capitaine. Le joueur de concession. C'est incroyable.
En parlant de joueur de concession, as-tu vu le nouveau joueur de concession à Chicago hier? Et si oui, comment as-tu trouvé Connor Bedard?
Bien, il est très bon. On n'a jamais pensé qu'il ne serait pas très bon. Sauf que là, il joue contre des équipes un peu moins fortes que la Ligue nationale. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs de la Ligue nationale, mais tu vois qu'il y a un talent, il va être spectaculaire. Moi, mon seul petit point d'interrogation, c'est qu'il n'y a pas le... Connor McDavid, il est rapide, il est talentueux, c'est le meilleur, mais il est physiquement imposant. Ce que Connor Bedard n'a pas. Est-ce que ça va lui nuire? Genre, je regarde Crosby, il n'est pas physiquement imposant. Il a su laisser sa marque et il laisse encore sa marque dans la Ligue nationale. Donc, c'est à suivre, mais oui, c'est un gars spectaculaire. Ça, c'est ça.
Jusqu'à maintenant, au camp d'entraînement du Canadien, est-ce qu'il y a des joueurs sans contrat qui t'ont impressionné, des gars qui veulent vraiment se faire une place avec le bleu, blanc, rouge?
Je te dirais qu'il y a des joueurs qui ont des contrats, mais qui vont aller quand même au Rocket. Xavier Simoneau, le petit ailier gauche, là, qui, moi, je l'appelle le bulldozer. Il fonce partout, il a peur de rien. Il y a William Trudeau à défense. S'il n'y avait pas Matheson, Goulet et Jacky, il y aurait certainement une place pour lui avec le Canadien. Il a été excellent. Il y a des gars comme Gignac, qui a été très bon, ultra rapide, qui a démontré de la vitesse. Il y a des joueurs qui sont là parce qu'ils ont été bons avec le Rocket. Il ne faut pas oublier qu'un camp d'entraînement, c'est bon pour le Canadien, mais c'est bon pour le Rocket. Puis là, le Rocket, ça va être vraiment la relève du Canadien. Si Logan Mailloux va avec le Rocket, si Trudeau va avec le Rocket, si tous ces jeunes-là vont avec le Rocket et ils progressent, ils ont une banque de joueurs qui va être extraordinaire. Est-ce qu'ils vont tous être bons? Non. Mais moi, je pense qu'il y en a qui vont être excellents là-dedans. Ça, c'est certain.
Logan Mailloux, il s'habille ce soir. Veut vraiment voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre parce que lui, on ne sait pas si on le retourne à Laval. Jusqu'à maintenant, il a gagné des points. C'est quoi ton point de vue sur Logan Mailloux?
Ben moi, je pense qu'il va être très bon. Là, c'est un joueur qui a un instinct offensif. C'est un joueur qui a 6 pieds droits. Moi, je le trouve pas explosif, mais il a un bon coup de patin. C'est-à-dire que quand il est parti, il peut accélérer. Sauf qu'il fait des choses juniors qui fonctionnent. Exemple, à la ligne bleue, il est immobile, il essaie de déjouer un joueur. Dans le junior, tu joues contre des 16, 17, 18 puis 19 ans. Dans la ligne nationale, tu commences à jouer les meilleurs, là, les Connor Bedard de ce monde, là, puis McDavid, 18, 19, 20, puis là, ça monte parce qu'il y a des joueurs jusqu'à 35 ans. Donc, ça ne fonctionne pas toujours. Sa prise de décision entre le fait de faire une passe ou un lancer, il y a un excellent lancer du poignet. Moi, je pense qu'une période avec le Rocket, pourquoi je vous dis une période? C'est-tu 20 matchs? C'est-tu une demi-saison? C'est-tu une saison complète? Il n'y a aucun règlement qui empêche un joueur de ce talent-là d'aller dans la Ligue américaine et brûler la Ligue américaine pour bâtir une confiance. Je ne pense pas qu'il est tout à fait prêt.
Le premier choix 2022, Slavkovski, en a-t-il assez fait pour convaincre Martin Saint-Louis de l'organisation? Tu ris, mais il a quand même été pas mauvais là, à date, là, Slavkovski.
Je vais vous dire comment je parle de lui. Moi, je l'appelle le Slav, parce que Slavkovski, c'est Slavkovski. Tu sais, il est comique en entrevue. Tu sais, l'année passée, il avait reçu un coup à la tête. Il dit « My head is spinning ». Oui, c'est un fait. Mais moi, j'aimerais le voir un peu plus hargneux, un peu plus... C'est un gars de 6 pieds 3. On l'a vu, là, le match qu'il a joué, le deuxième match, il était à droite. Il a entré au filet, il a protégé la rondelle. Et c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Aller dans les endroits où c'est payant, aller dans les endroits où ça peut faire mal physiquement, gagner ses bagarres un contre un. J'aimerais ça qu'il soit un peu plus créatif avec la rondelle. Il y a un bon lancer sans servir. Il n'y a pas une explosion sur patin, mais c'est un gars qui est capable de bien patiner. C'est toujours un gars à développer.
Il ne faut pas oublier, Gaston. Il est junior encore, là, il a 19 ans.
Ah oui, c'est ça que j'allais dire. Là, il avait 18 ans, là, il a 19 ans. Je ne trouve pas que sa progression est très grande, mais il faut être patient. Il ne faut surtout pas le brûler. Si on pense qu'il ne peut pas aider le Canadien sur les 3 premiers trios, il faut l'envoyer à Laval. Ça, c'est pas dans la tête des dirigeants.
Un an plus tard, parce que l'année passée, il a commencé à Montréal.
Oui, mais il aurait dû. Oui, un an plus tard, Michel, il n'est jamais trop tard, bien. Il aurait dû l'envoyer l'an passé, puis ils ne l'ont pas envoyé. Là, ils ont brûlé Kotkaniemi, ils ont brûlé Galchenyuk, ils en ont brûlé des jeunes. Si c'est ça qu'ils veulent, mais qu'ils continuent à le garder à Montréal, puis qu'on y trouve des actus. Ben là, il a mis un petit bobo, c'est cassé un ongle, puis là, il va manger un hot dog, il apprend beaucoup sa passerelle, il voit les autres. Tu n'apprends rien sur une passerelle, à part manger des hot dogs. Moi, je te le dis, là. Il faut que ça arrête ces théories-là ou ces excuses-là qu'on lui trouve. S'il peut aider le Canadien, s'il joue bien, il joue encore des matchs préparatoires, il y en a encore 4. Est-ce qu'il va jouer 4? Je pense pas. À chaque fois qu'il est sur la glace, il faut qu'il démontre une progression. Puis dans le moment, c'est pas évident. Je te dis pas qu'il est pas bon. Je te dis, oui, il est jeune, mais à quel âge qu'on va arrêter de dire qu'il est jeune? À 39 ans, 40 ans, il va prendre sa retraite. Il va être trop tard.
J'ai regardé l'alignement du Canadien pour ce soir. Pourquoi Martin Saint-Louis habille-t-il plein de joueurs physiques contre Toronto? Est-ce qu'on s'attend à du jeu robuste?
Non, mais Martin Saint-Louis, moi j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, à un moment donné, mes vétérans, j'aime ça bien les entourer pour qu'ils se sentent en confiance, qu'ils se sentent prêts à jouer à commencer l'année. Il y a deux trios de vétérans. Là. Est-ce que c'est ces joueurs-là qui vont jouer ensemble? Non, c'est des joueurs de la Ligue nationale. Donc, moi, je pense qu'il lui donne... Armia, là, il joue avec Monahan et Anderson. Là, le train est à la gare. Embarques-tu dans le train ou t'embarques pas? Lui, il n'aura pas 50 auditions. Là. S'il continue là, à pas jouer, là, à pas se présenter, ben Martin Saint-Louis va dire, écoute, t'as perdu ta place. Sauf qu'un contrat en cours de 2 ans, 3,4 millions, c'est un contrat qui fait mal à l'organisation. Ça, c'est certain. Mais il faut qu'Armia démontre du caractère. Hey, il fait 6 pieds 4. C'est un gros joueur de hockey. C'est un gars qui a du talent. On ne l'a pas vu du camp. Mais là, il joue avec des bons joueurs. Moi, je m'attends à une grosse performance de lui. Pourquoi qu'on habille les joueurs robustes? Mais Martin Saint-Louis, à un moment donné, il veut savoir ce que son équipe a dans le corps aussi. Puis c'est correct. Je pense pas qu'il arrive quelque chose. Ils vont jouer 3 matchs, là. Vendredi, okay. Samedi puis lundi. S'il y a quelque chose, là, ils vont mettre... Il va y avoir des intincelles aujourd'hui. Le feu va peut-être prendre demain, puis l'incendie va être... Les pompiers vont... arroseront tout ça, puis ça va se calmer.
En terminant, vois-tu le nouveau venu, Pearson, dans le top 9?
Oui. Moi, oui. Je pense qu'il peut jouer sur un troisième trio. Moi, okay. Ce que j'aime de lui, il joue très large. Il joue ses épingles. C'est un gars qui est physiquement imposant. C'est un gars qui est puissant. Il a du vécu. Il n'est pas rétabli de sa blessure au poignet à 100%, mais on dit qu'il va l'être le début de la saison. Ce que j'aime de lui, il est responsable. Il travaille bien dans les coins de patinoire. Puis il a déjà marqué entre 15 et 20 buts. Moi, je lui ferais confiance. L'autre chose, c'est que là, dans le moment, parce que Slavkovski est à droite, bien, il y a 3 lettres qui jouent à gauche au deuxième trio. C'est RH. Très heureux de ça.
Puis Armia, on fait quoi avec?
Bien, Armia, là, tu le mets à gauche, tu le mets à droite, tu le mets au centre. Puis à un moment donné, tu lui as été un gardien de but. Il dit oui, mais va dans le but.
Tu souhaites quasiment qu'il se blesse.
Hey, j'aime ta réponse. Non, tu
ne souhaites pas de blessure, mais si tu as besoin d'homme de ton équipe, là, il pourrait avoir un prêt qui pourrait se faire.
Ouais.
Puis dans les buts, en parlant de gardien de but, ben c'est Redley. C'est Montembeau à l'un. Ce soir, c'est Primo.
Primo puis Mann.
Puis Mann, là.
Ouais, mais Mann, il sera pas là. Primo va commencer le match. Puis lui, ben c'est sûr qu'il y a du hockey de rattrapage à faire parce qu'il a été moyen dans le camp. Mais si Canadien n'a pas besoin, ils vont le mettre au balotage. Puis je pense pas que quelqu'un va le prendre au balotage. Donc, il va jouer à Laval avec un contrat de 7 800 000 dans les poches. Mais ça, t'as pas le choix. C'est comme ça.
C'est tout. Merci beaucoup, Gaston Therrien. On se reparle dans une semaine.
Parfait. Salut, les gars.
On a du hockey beaucoup pour nos Saguenayens ce soir à Victo, dimanche contre... C'est contre les Remparts de Québec.
Contre les Remparts, dimanche.
Ici, au Centre Georges Vézina. Les Marquis en match hors concours ce soir à Ted Fermin. Ça débute la semaine prochaine, la saison régulière.
Vendredi, du côté de Sorel.
Les élites, un petit peu de football collégial. Les Gaillards, je sortais les résultats des Gaillards de Jonquière depuis le début de l'année. 65 à 0, 49 à 3, 41 à 14 et 51 à 0. Mais je parlais que le coach, le corps arrière, Olivier Lefebvre, c'est sa 4e année. Ça paraît, là.
C'est ça, ce sont
des vétérans. Un corps arrière d'une 4e année là, dans le collégial. Là,
beaucoup de vétérans dans la formation de Jonquière. Chicoutimi, souviens-toi, lorsqu'ils ont joué le premier match contre Jonquière, puis ça avait terminé 65-0, ils disaient la moitié de mon club, c'est des recrues. Recrues de 17-18 ans, c'est des flots. Ils n'ont pas d'expérience, tu sais. Et ils ont quand même 2 victoires, 2 défaites. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir comment Chicoutimi s'est débrouillé. Jonquière, c'est une équipe qui est à maturité.
Exact.
205 points de marqués en 4 matchs, 17 accordés.
C'est peut-être que de marge. Et du côté des Cougars, ben, ils vont jouer contre les Pionniers de Ribouski demain à Jonquière. Ça fait tellement drôle d'annoncer ça. C'est l'équipe de Chicoutimi qui joue à Jonquière. Mais on répète qu'on est en train d'installer le terrain synthétique. Honnêtement, là, le terrain synthétique, ce que j'ai su, ça devait coûter 1 million. Il y a 2-3 ans, là, on était dû pour le changer. Puis j'avais dit combien ça coûte, il m'avait dit 1 million. Je pense que ça va coûter 1,4 million ou 1,5 million. Les coûts, tu sais, des fois,
ça augmente.
On parle de construction de travaux puis des projets. Là. C'est pas évident. Tu sais, c'est 300-400 000 de plus dans le budget pour l'UQAC.
C'est ça. Puis c'est l'entretien avec ça.
L'entretien,
à un moment donné, il faut le changer. On l'a déjà mentionné. L'espérance de vie d'un terrain comme ça, c'est 10 ans. Tu sais, à un moment donné, celui de Jonquière, va falloir le surveiller bientôt aussi. Il va falloir le changer. Alors, là, pour l'instant, il sert bien. Puis, j'ai hâte de voir la journée du 21 octobre. Les deux formations vont jouer contre des adversaires.
OK.
Ils vont être les deux équipes à domicile.
Il va avoir
Jonquière
plus de
en après-midi.
OK.
Et Chicoutimi en soirée.
Ah, pas, c'est pas un contre l'autre. Là.
Non. Parce que les deux équipes vont s'affronter encore une fois, un contre l'autre. OK. le 13 octobre, vendredi en soirée.
Mais la date que tu nous as donnée, c'est les deux équipes qui jouent dans la même journée.
Exactement. Jonquière va recevoir Rimouski en après-midi et Chicoutimi va recevoir Mirici en soirée.
OK. Dans un moment, la course automobile, puis évidemment, on surveille ce soir les Blue Jays de Toronto. Les Blue Jays, victoire des Blue Jays, défaite des Seattle et c'est réglé.
Oui.
Mais attendez pas à dimanche, je serais tannant, là. C'est du stress pour rien.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5, ma radio d'ici.
Les centres d'autonomie vous offrent le plus grand choix de quadriporteurs, du plus petit au plus performant en achat ou location, en plus des vélos électriques Vélec et les VTT électriques à découvrir au centre d'autonomie. 690 des actionnaires Chicoutimi, 399 avenue de la Friche, Dolbeau-Mistassini, 542-12-55.
La saison du VR, des décapotables et de la moto au Québec, ça passe en un claquement de doigts. Profitez de l'été jusqu'au dernier moment en remisant votre véhicule saisonnier en ligne avec SACLIC. Vous pouvez même planifier dès maintenant la date de votre remisage afin de profiter de votre véhicule sans aucun souci, quitte à la modifier si vous changez d'idée. Évitez de vous rendre dans un point de service. Pour faire son remisage comme ça, le chemin le plus court, c'est SACLIC. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Ce n'est pas une arnaque. Le 92.5 a bel et bien une nouvelle page Facebook. Les fans de CKJ 92.5, Meta, ayant bloqué tout le contenu d'informations canadiens de ces plateformes, nous avons décidé de créer une seconde page pour rester en contact avec vous, nos auditeurs. Venez aimer notre nouvelle page Facebook, les fans de CKJ 92.5, pour connaître les nouveautés à nos émissions, participer au bingo en direct ou encore contacter nos animateurs. Rendez-vous sur Facebook, la page Les fans de CKJ 92.5. Saviez-vous que chez Jean Dumas, Saguenay-Mitsubishi, nous avons aussi un département de véhicules usagés? On reprend toutes les marques. T'as déjà un Mitsubishi? Un rabais fidélité de 500 $ t'est offert sur ton nouveau véhicule neuf, équipé de la meilleure garantie du marché. Et ça tombe bien. Jérémy, notre directeur de l'usager, évaluera ton véhicule au meilleur prix possible. Jean Dumas, Saguenay-Mitsubishi, Boulevard du Royaume, Jonquière.
Jean Dumas multi-concessionnaire.
Pour le travail ou le loisir, soyez bien équipé avec LCR. Être étudiant, c'est payant. Obtiens jusqu'à 20% de rabais avec ta carte étudiante et ce, en tout temps. LCR, vêtements et chaussures, partout, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
La chronique F1 vous invite à suivre le podcast sur la Formule 1, le paddock.
Course automobile.
Un autre Grand Prix de F1 qui s'est déroulé au cours du dernier week-end, Grand Prix du Japon, qui a été remporté par Max Verstappen. Mais ce qu'on remarque depuis déjà quelques semaines, puis on en jase évidemment avec Jean-Michel Tremblay, puis on va en jaser évidemment, c'est la poussée de McLaren, qui actuellement, là, c'est l'écurie que tout le monde suit. Ils ont eu une ascension tout simplement incroyable depuis le milieu de la mi-saison, et c'est vraiment elle qui est hot. En ce moment, quand on regarde la comparaison entre les 8 premiers Grands Prix et les 8 derniers, McLaren est loin devant tout le monde. Jean-Michel Tremblay, comment ça va?
Hey, ça va bien, Dominique. Écoute, tu as tout à fait raison de mentionner ça. On en discutait justement ensemble cette semaine en revenant du hockey, mais McLaren, c'est incroyable qu'est-ce qui se produit cette année. Puis ce qu'on identifie aussi beaucoup, peut-être par rapport un petit peu aux autres équipes, c'est qu'on semble avoir fait les choses dans le bon ordre chez McLaren. Donc, oui. C'est ça qui est le fun d'avoir un peu peut-être comme des écuries comme Aston Martin ou Mercedes qui ont décidé d'amener beaucoup d'évolutions en début de saison. Chez McLaren, on a vraiment été patients. T'sais, premièrement, quand tu as une voiture qui est aussi mauvaise, tu sais que tu ne gagneras pas le championnat. Fait que tu as quand même le temps de prendre ton temps aussi de ce côté-là. Donc, je pense qu'on a vraiment fait les choses comme il faut. On a attendu de voir un peu comment la saison a évolué, voir un peu les nouveautés qu'amenaient les autres écuries, se faire un plan de travail. Il ne faut pas oublier aussi que chez McLaren, on a fait un gros ménage au niveau du département technique en début de saison. Donc, ça a aidé aussi. Donc, maintenant, c'est Andrea Stella, donc un gars qui était dans la technique chez McLaren, qui est maintenant aux commandes. Donc, je pense que c'est vraiment de bon augure pour le futur. Donc, avec les prochaines années, on est allé chercher des cerveaux aussi quand même importants. On est allé chercher David Sanchez, qui était quelqu'un qui travaillait un des cerveaux de chez Ferrari. On est allé chercher M. Rod Marshall aussi, qui est le directeur technique depuis plusieurs années chez Red Bull. Donc, je pense que ça va être extrêmement le fun de voir les prochaines années dans les Formule 1. Parce que là, présentement, on assiste un peu à la guerre des cerveaux. Là, à gauche et à droite, on voit des ingénieurs qui quittent, qui arrivent. Donc, c'est vraiment le fun de voir qu'est-ce qui se passe en ce moment.
Et oui, guerre des cerveaux, c'est intéressant de voir ces fameuses têtes qui permettent à ces voitures-là d'évoluer. On a toujours dit, ce qui se fait sur les Formule 1 réussit finalement à s'amener sur les voitures qui sont sur les routes dans nos villes, qu'on a dans nos cours.
Ouais, ben ça a toujours été la mission première, si on peut dire un petit peu, hein. Surtout des motoristes, je dirais, en Formule 1. C'est pour ça que les motoristes intègrent et quittent la F1. C'est entre autres pour ça que Honda avait décidé de quitter la F1 aussi en 2021. Donc, on s'était dit, bon, mais nous, ce qui s'en vient présentement en Formule 1, ça ne nous allume pas vraiment sur ce qui s'en vient pour nos voitures de série dans les prochaines années. Par contre, quand on a dévoilé la réglementation de 2026, où est-ce que là, on voulait avoir au moins la moitié de la puissance qui provient de l'énergie électrique, bien là, à ce moment-là, ça redevenait beaucoup plus intéressant pour Honda. On sait qu'avec l'électrification des transports, là, donc Honda, c'est pour ça qu'il y a Ford qui s'amène aussi comme partenaire technique de Red Bull. C'est pour ça aussi qu'il y a Audi qui fait le saut en Formule 1. Donc, je pense vraiment que la réglementation 2026 vient rejoindre beaucoup ces constructeurs-là, justement, pour amener ces technologies-là dans les voitures de demain. Donc, ça, c'est vraiment une excellente chose de voir ça. C'est important que la F1 demeure comme ça parce que ça a toujours été le summum de l'ingénierie, autant pour le design des voitures que pour les motoristes. Puis, il faut que ça reste comme ça aussi. Sinon, ben si on veut trop standardiser les choses, ben il y a déjà, par exemple, l'IndyCar qui existe comme ça où est-ce qu'il y a deux motoristes puis tout le monde a le même châssis. Fait que c'est sûr que c'est peut-être un petit peu moins excitant là, à suivre au niveau des évolutions du design des voitures et tout. Mais je pense que c'est entre autres ce qui fait pourquoi la Formule 1 est intéressante comme ça, donc c'est de voir cette guerre-là de cerveau. Et plus que jamais, hein, on se dit qu'il y a un problème de personnel un peu partout, on entend parler de ça tous les jours, mais la Formule 1 aussi vit ce genre de choses-là.
Ah oui.
Donc on s'arrache les talents, les écuries investissent. Mercedes d'ailleurs a déposé les plans pour construire une espèce de campus de Formule 1 qui s'inspire grandement de la Silicon Valley pour qu'ils deviennent un employeur de choix et que lorsque les jeunes sortent des universités, veulent venir s'établir là et qu'on les traite bien et tout. Donc, on est vraiment rendu là dans le recrutement en Formule 1. Puis, on le voit, les écuries qui engagent, qui sont capables d'aller dénicher les meilleurs ingénieurs, bien, on voit quand même, dans un horizon peut-être de un an ou deux, déjà les progrès sur la piste. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important qu'est-ce qui se passe en F1 présentement. Donc, je pense que c'est pour ça qu'à chaque mois, peut-être, là, on voit un ingénieur qui quitte pour une autre écurie. Puis, c'est une question de défi aussi. C'est comme Rob Marshall qui était chez Red Bull. Quand ça fait 10 ans que tu es là, tu as tout gagné, à un moment donné, bien, il y a des nouveaux défis peut-être qu'on veut s'accomplir. Puis, ces gens-là, bien, c'est des gens compétitifs. Je pense qu'il n'y a pas de mal à ça de vouloir relever le défi ailleurs.
Maintenant, quand on regarde avec le reste de la saison, on prépare déjà la saison prochaine. Côté des écuries, côté pilote, est-ce que c'est pas mal réglé partout?
Le seul siège, en fait, qui reste de disponible, c'est celui de Logan Sargeant, du côté de chez Williams, qu'on n'a pas reconfirmé encore. Malheureusement, pas connu un très bon week-end du côté de Suzuka, donc une sortie de piste quand même assez violente. Donc, en qualification, il n'a pas été chanceux, donc ça n'a pas été sa fin de semaine, si on peut dire. Et là, ben, c'est certain que nous, en tant qu'observateurs à l'externe, un peu, si on peut dire ça comme ça, ben, quand on voit ce genre de choses-là, on se dit, mais mon Dieu, il doit être rendu à plusieurs millions de dollars de dommages. Bon, on sait que Williams, ce n'est pas une écurie qui roule sur l'or. Par contre, Logan Sargeant a beaucoup de partenaires aussi américains qui viennent avec lui. Puis aujourd'hui, le patron de l'écurie, James Valls, qui a fait une petite vidéo pour expliquer un peu leur vision des choses, puis ça nous aide peut-être un petit peu plus à comprendre pourquoi on veut l'avoir dans la voiture l'an prochain. Tu sais, ce qu'on mentionnait, c'est que ce pilote-là, il n'a pas gagné en Formule 2, il n'a pas gagné de championnat. C'est un pilote de la filière Williams, donc ça serait un peu... comme on dit au Québec, ça serait un peu chien de le sacrifier comme ça après une année, là, si je peux m'exprimer comme ça. Donc vraiment, nous, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent l'encourager. Eux voient beaucoup de progression aussi dans, parmi les choses qu'on ne sait pas non plus tout le temps, qu'on nous expliquait, c'est que présentement, Sargent roule avec un handicap au niveau aérodynamique sur la voiture. Donc, étant donné la rareté des nouvelles pièces et aussi le temps que ça prend de les construire, bien, on les donne en priorité à Alex Albon. Fait que souvent, dans les week-ends de course, ne roulera pas avec le même avantage qu'Alex. Donc, c'est sûr qu'eux ont des données qui sont encore plus poussées, qui leur permettent vraiment de faire la comparaison entre les deux pilotes. Et eux voient une progression de Logan Sargeant, Grand Prix après Grand Prix. Donc, c'est certain que je peux les comprendre aussi. On a quand même misé des ressources sur ce pilote-là. Laissons-lui quand même peut-être une deuxième année pour essayer de se prouver. Donc, il y a beaucoup de circuits qui sont nouveaux. On sait qu'en Formule 2, la plupart du temps, on reste en Europe. On va à Abu Dhabi, mais on ne fait pas tous les circuits sur les autres continents. Donc, je pense que ça pourrait être la bonne chose à faire, en toute honnêteté, de lui laisser peut-être une deuxième saison. Ou est-ce qu'à ce moment-là, ben, il y aura au moins l'expérience de tous les circuits, donc ça pourra quand même l'aider de ce côté-là. Mais sinon, c'est vraiment le seul baquet qui reste de libre. Sinon, tout le reste, tout le monde est confirmé. Il n'y a pas vraiment de changement. Donc,
sauf peut-être Sergio Perez.
Ouais, ça...
toujours le point d'interrogation. Hein?
Il est sous contrat, mais je pense que tout le monde a été déçu qu'on annonce que Daniel Ricciardo et Tsunoda étaient prolongés du côté de chez AlphaTauri lorsqu'on voit la carte de visite laissée par Liam Lawson. Et c'est même pas sûr encore que Ricciardo soit au volant du côté du Qatar la semaine prochaine.
Encore,
donc, il y a une séance à faire en simulateur cette semaine où est-ce que ça va être le test qui va lui dire oui ou non que tu peux participer à la prochaine course. Mais j'ai l'impression que vu qu'il y a un contrat pour l'an prochain, peut-être qu'on ne voudra pas se presser. Je pense qu'on va vraiment vouloir attendre qu'il soit à 100%. Et Lawson a mentionné aussi sur ses réseaux sociaux qu'il ne serait pas sur la grille de départ des Grands Prix en 2024. Je pense que tous les gens qui suivent la F1 sont vraiment déçus de ça. Mais par contre, avec Red Bull, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, si le jeune homme a encore une chance de se faire valoir au Qatar puis il fait encore une bonne course, parce qu'au Grand Prix du Japon, sur les terres de Yuki Tsunoda, Liam Lawson a fini devant Yuki Tsunoda. Donc, oui, ça, c'est quand même une affirmation assez importante. Mais c'est ça, chez Red Bull, on ne le sait pas. Et là, championnat de constructeurs, c'est réglé aussi depuis le Grand Prix du Japon. Fait que ça, c'est dans la poche. On n'a plus à s'inquiéter pour ça. Un sixième championnat des constructeurs pour Red Bull. Donc, puis ça a été un week-end atroce pour Sergio Perez. T'en as parlé, Dominique, mais c'était, je pense, une de ses pires fins de semaine. À accumuler les pénalités, les accidents, les accrochages, les erreurs. On l'a même vu abandonner, revenir en piste plus tard pour purger une pénalité, pour ne pas avoir une pénalité de grille au prochain Grand Prix du Qatar. Honnêtement, là, c'était, je pense, son pire week-end de course à vie. Puis, en tout cas, quand moi je vois un jeune comme Lawson qui est là, qui dit qu'il ne sera pas sur la grille en 2024, puis quand on voit un Sergio Perez qui multiplie les bourdes, oui, il va avoir un contrat, mais on sait que chez Red Bull, c'est facilement modifiable. Donc, seul le temps pourra nous dire si peut-être on pourra voir Lawson sur les grilles l'an prochain. Donc, le championnat des constructeurs, c'est réglé. Et on dit qu'il manque 3 points à Verstappen au Qatar pour être en mesure de gagner son troisième championnat des constructeurs d'affilée. Donc, je pense pas qu'il y ait de problème pour ça.
Il faudrait
pour
toute Verstappen, une catastrophe.
toute une catastrophe, parce qu'écoute, en qualification en fin de semaine, on sait qu'à Singapour, ça n'a pas bien été, mais je pense que Max voulait faire un énoncé du genre « OK, c'est moi le meilleur, puis je vais vous le reprouver encore une fois. » Un tour de qualification anthologique. Là. Écoute, ça a été le seul à descendre sous la barre des 1,29. Piastri, qui s'était lancé en deuxième place, a fait un 1,29,4,5 presque. Puis Verstappen a fait un 1,28,9.
Une demi-seconde.
Dixième, la deuxième place.
Pas
c'est carrément incroyable. Donc, je pense que les autres équipes aussi ont fait OK. C'est quand Max décide qu'il se fâche, ça peut être quelque chose. Puis il l'a dit à la communication radio aussi quand on lui a dit qu'il a fait la pole. Il visait de descendre sous le 1,29. Donc, impérial avec sa voiture, encore une fois, remporte l'épreuve. Puis juste pour revenir à ton sujet initial, McLaren, on a parti 2 et 3, Piastri et Norris, et on finit 2 et 3, sauf que c'est l'ordre inversé. Oui. Donc, Norris qui a fini deuxième et Piastri qui a fini troisième. Donc, je pense qu'on a bien fait parce que Norris a perdu beaucoup de temps derrière Piastri. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on a donné la consigne de faire passer Norris, puis s'éloigner un peu, mais malheureusement, la voiture est vraiment pas assez performante pour rattraper la Red Bull. Mais c'est au championnat des constructeurs que ça va vraiment devenir intéressant de suivre. La fin de la saison, Mercedes-Ferrari, ça va se décider, d'après moi, au dernier Grand Prix. Et là, est-ce que McLaren va rattraper Aston Martin? Seulement 49 points d'écart entre les deux, puis il reste encore 6 Grands Prix. C'est fort probable, les 20 points d'écart entre Ferrari et Mercedes, avec encore 6 Grands Prix à disputer. Ferrari avait un nouveau plancher en fin de semaine qui lui a permis de rester un peu devant Mercedes. Je pense qu'on va avoir une belle fin de saison pour le classement des constructeurs. Ça va être le fun de voir ça.
Alors, on se reparle la semaine prochaine avant le Grand Prix du Qatar. Jean-Michel Tremblay, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Bonne fin de semaine à tous. Au revoir.
Et c'est comme ça qu'on clôture le vestiaire. On ferme les portes du vestiaire dans quelques instants. Au retour, c'est le retour du 92.5. Comment bien commencer le week-end pour les 90 prochaines minutes.
On ferme le vestiaire. De retour lundi, 15h30.